Bienvenue dans le débat. Pour bien comprendre le système politique colombien actuel, il faut, je pense, l'imaginer comme une cocotte minute dont la soupape serait bloquée.
Depuis 200 ans, en fait.
C'est ça. Pendant 2 siècles, les élites libérales et conservatrices ont confisqué le pouvoir. Et la gauche, eh bien, elle a été systématiquement exclue du jeu. Et puis, le 19 juin 2022, la pression est devenue intenable. La soupape a sauté et Gustavo Petro a remporté la présidence sur le fil.
Ouais, la métaphore est très juste. Enfin, c'est quand même la première fois dans l'histoire du pays qu'un candidat de gauche accède au pouvoir suprême. Ça redessine complètement la carte politique de la région.
Absolument. Et donc, la question centrale qui nous occupe aujourd'hui, c'est de comprendre la nature de cette explosion. Moi, je soutiens que ce scrutin historique, il consacre une véritable adhésion idéologique, un réalignement profond de la société colombienne vers la gauche.
Alors que de mon côté, je défends l'idée qu'il s'agit avant tout d'une révolte pragmatique, vous voyez, un vote anti-système qui est surtout motivé par l'exaspération. C'est pas une conversion soudaine au socialisme.
Pourtant, ben regardez les chiffres. La participation a atteint un niveau record de 58%, avec plus de 11 millions de voix pour Petro. Et puis, il y a ce symbole fort. Francia Márquez, une militante écologiste issue d'une région extrêmement pauvre du Pacifique, qui devient la première vice-présidente afro-colombienne, amener consciemment au sommet de l'État une représentante des populations historiquement marginalisées, c'est un choix idéologique d'une puissance inouïe. Ce n'est pas qu'un simple non au système, c'est un vrai oui à un projet de justice sociale.
Attendez, vous parlez d'un choix idéologique délibéré, mais il faut quand même regarder contre qui Petro se battait au second tour. La droite traditionnelle avait été, disons-le, pulvérisée.
C'est vrai, oui.
Son adversaire final, Rodolfo Hernandez, c'était un homme d'affaires de 77 ans qui a mené une campagne agressive, purement populiste, depuis son téléphone sur les réseaux sociaux. L'élection opposait en réalité deux formes de rejet du système.
Deux formes très différentes, certes.
Oui, l'une de gauche et l'autre profondément antipolitique. Ce que ce vote prouve, à mon sens, est une soif de disruption globale. Les électeurs voulaient renverser la table, peu importe qui la renversait.
Je vous l'accorde, la soif de disruption était omniprésente. J'ai d'ailleurs moi-même été surpris par l'effondrement total des partis traditionnels dès le premier tour. Mais comment expliquez-vous le comportement des côtes Caraïbes et Pacifiques?
Eh bien,
Pendant des décennies, l'abstention y régnait. Cette fois, ces régions ont compris que la politique traditionnelle ne leur donnerait jamais accès aux dividendes de la croissance. Et elles se sont mobilisées massivement pour Petro. C'est un véritable éveil géographique. Ce nouveau clivage de classe assumé, il montre bien comment une conscience politique de gauche s'est cristallisée là où les infrastructures manquent le plus.
alors, parlons-en de la géographie. C'est vrai, les côtes ont voté Petro, mais il faut analyser les marges, vous savez. À peine 700 000 voix séparaient les deux candidats.
C'est suffisant dans une élection présidentielle.
Oui, mais Hernandez a dominé de manière écrasante dans les vastes régions rurales et les bastions conservateurs du centre du pays. Donc cette carte, elle ne montre pas une Colombie qui s'est convertie en bloc à la gauche. Elle montre un pays fracturé en deux, incapable de trouver un consensus.
La fracture, elle existe, c'est indéniable. Mais cette marge étroite n'efface pas la radicalité de ce que ces électeurs ont validé. N'oublions pas qui est Gustavo Petro. C'est un ancien membre du M19.
L'ancienne guérilla urbaine, tout à fait.
Exactement. Une guérilla qui a fini par déposer les armes à la fin des années 80, élire un ancien guérillero à la présidence, dans un pays traumatisé par des décennies de conflits, c'est un acte de réconciliation démocratique colossal. Et ils l'ont élu sur un programme clair, hein. Réforme agraire profonde et arrêt progressif de l'exploration pétrolière.
Oui, enfin, ont-ils réellement voté pour arrêter d'extraire du pétrole ou simplement pour chasser les élites de Bogota? Observez la réaction des marchés. Dès le lendemain, le peso colombien et la bourse ont chuté.
Oh, les marchés sont souvent frileux au début.
Mais cette panique financière s'explique. Les investisseurs ont compris que ce gouvernement voulait imposer une transition énergétique brutale à une économie qui dépend massivement de ses exportations fossiles. Et d'ailleurs, les immenses résistances actuelles au Congrès le prouvent. La Colombie a voulu briser un monopole, oui, mais sans pour autant signer un chèque en blanc pour une transformation radicale de son modèle.
Nous touchons là au cœur du problème. Ce qui est fascinant dans notre discussion, c'est que nous sommes au moins d'accord sur la dimension historique de cette rupture.
Ah oui, incontestablement.
La gauche colombienne a prouvé, envers et contre tout, qu'elle pouvait vaincre par les urnes un système qui avait fait de son exclusion une règle quasi-constitutionnelle.
L'exclusion institutionnelle est terminée, c'est un fait. Mais le défi actuel de Petro illustre parfaitement mon point. Gagner une élection en capitalisant sur le rejet du système, ça ne suffit pas à garantir l'adhésion d'une nation à un programme de gauche. La disruption institutionnelle est actée. La transformation idéologique, elle, reste à prouver au jour le jour.
C'est vrai que c'est un équilibre extrêmement fragile. Mais bon, quelles que soient les difficultés politiques auxquelles fait face ce gouvernement, l'image de Francia Márquez demeure pour moi le symbole le plus durable de ce scrutin.
Une étape marquante, en effet.
La preuve qu'un sommet réputé inaccessible, protégé par notre fameuse cocotte minute, a finalement sauté. Une nouvelle réalité politique est en marche et nous laissons nos auditeurs tirer leurs propres conclusions sur ce qui sera finalement construit sur ces nouvelles fondations.